Bonsoir. Quand Donald Trump attaque Emmanuel Macron à coups de tweets au contenu plutôt virulent, le président américain en a rédigé 4 pour fustiger l'armée européenne, le vin français, les tarifs douaniers, railler la cote de popularité de son homologue français, nos communs tout presque de l'Elysée qui minimise. Mais quelle mouche a donc piqué l'imprévisible monsieur Trump ? Analyse à la une désinformée. Christophe Castaner, lui, met en garde les gilets jaunes, blocages interdits ce samedi. Le gouvernement se prépare à une riposte. L'annonce des mesures, eh bien, elle est pour demain matin. 13 novembre 2015, Paris et la France se souviennent. L'horreur des attentats, la menace est toujours là plus que jamais. On en parle avec nos invités. Bonsoir à vous, Marion Mourgue.
Bonsoir.
Journaliste politique au Figaro. Avec nous également, bonsoir. Et bienvenue, Yasmina Jaffar. Vous êtes journaliste fondatrice du site laruchemedia.com. Invité également, bonsoir, Pascal Blanchard.
Bonsoir.
Bienvenue. Historien, vous publiez « Sexe, race et colonie » aux éditions La Découverte. Et avec nous également Jean-Christophe Gallien, bonsoir. Ça. Politologue, communicant, président de JCGA. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. Il n'a pas visiblement digéré son séjour parisien. Donald Trump, de retour à Washington au surlendemain des cérémonies du 11 novembre, s'est donc fendu d'une salve, non pas de roquettes, mais de tweets particulièrement agressif à l'endroit d'Emmanuel Macron et de la France. Le premier pour critiquer de nouveau la proposition du président français de créer une armée européenne. Le deuxième pour cibler les vins français, accusant la France de pratiquer des tarifs douaniers trop élevés. Le troisième pour se moquer de la popularité d'Emmanuel Macron. 26% et un taux de chômage à près de 10%. Il donne même des chiffres. Le président américain qui écrit un quatrième tweet « Make France great again ». Gain, Nathalie Loiseau, invitée du 19-20 politique avec Yannick Falt et Gilles Bornstein sur France Info, la réaction de la ministre des Affaires européennes.
C'est sûr que 140 caractères et Twitter, ça n'aide pas à la pensée complexe. On en a une démonstration ce soir. Au moment où on est le 13 novembre, on commémore les victimes des attentats de Paris. Qui peut contester la nécessité pour l'Europe de prendre encore mieux en charge sa sécurité, de se prendre en main pour faire en sorte que ce qui la menace, elle soit capable d'y répondre. Personne, objectivement.
Allez, Marion Mourgue, c'est du jamais vu.
C'est vrai que c'est rare dans les relations diplomatiques qu'on arrive à cette colère ou crispation qui soit publiquement exposée via des tweets. Ensuite, ça vient de Donald Trump, donc on commence à être habitué à ce qui est imprévisible. Mais c'est pas sûr que ça peut permettre des relations amicales, oui.
Mais Pascal Blanchard, c'est quand même le président des États-Unis qui envoie des Trump, des tweets.
Des Trump. Très bien, on a trouvé l'expression qui va rester dans l'histoire. Il envoie des Trump.
Des tweets Trump, au choix, très agressifs.
Très agressif et en même temps qui, pour les Américains, se décote vite parce que le débat entre la France et l'OTAN et les armées européennes, c'est à peu près 60 ans que ça dure, depuis le général de Gaulle. Donc c'est une vieille tradition. On considère que les Français sont un peu ingrats face à l'Amérique qui les a sauvés, l'Amérique qui, est quelque part, grâce à l'OTAN, a été un parapluie qui les a protégés. Les Français ont toujours joué « je rentre, je sors de ça ». C'est quelque chose qui, aux États-Unis, est incompréhensible. Si vous prenez quelqu'un aux États-Unis, vous dites « voilà, les Français et l'OTAN, attendez, on les a sauvés deux fois, on les a aidés avec l'OTAN, ouais. Les Français jouent avec nous, ils sont dedans, ils ne veulent pas payer. » C'est quelque chose qui est très populaire. Donc il sait là qu'il va toucher une grande partie du pays, bien au-delà des Républicains, hein, sur cette question-là. Donc il joue sur quelque part, il démontre que Macron n'est pas à la hauteur de cet enjeu européen ou de cette, peut-être, de cette première place européenne que veut Emmanuel Macron. Mais il démontre qu'en fin de compte, il n'est pas réaliste parce qu'il oublie un petit peu le passé, le présent indirectement, mais aussi l'avenir par rapport aux risques militaires ou autres en Europe.
Mais tout de même, Jean-Christophe Gallien, pour rebondir sur ce que dit Pascal Blanchard, les mots, ça compte. Il écrit dans son premier tweet comment ça a marché pour la France. Il commençait à apprendre l'allemand à Paris avant que les États-Unis n'arrivent. Est-ce qu'on peut parler de crise diplomatique? Les mots, ça compte.
Il n'y a pas une crise diplomatique, il y a un vrai rafraîchissement entre les deux. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est que c'est très familier et que c'est très du tutoiement. Vous voyez, en gros, c'est comme une formule, c'est du tweet trumpien. Il tutoie Emmanuel Macron, en réalité, en version française. Il le fait vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, t'es pas à la hauteur. Ce qui est dit en clair, c'est que Emmanuel Macron veut être le leader. Je suis assez d'accord de cette Europe qui voudrait être autonome, mais qui ne fait pas un bloc entier, nous le savons tous. Et Macron lui-même, qui ne réussit pas suffisamment sur son propre territoire, devrait s'intéresser à cela, avant de commencer à vouloir être le leader de l'Europe et donc un des leaders du monde. Donc il l'a commencé d'ailleurs pendant les cérémonies, où j'ai trouvé que l'attitude était, on en parlait un peu en dehors du plateau, c'était pas vraiment la tête qu'il faisait, c'était plutôt l'attitude qu'il a eue avec Poutine d'ailleurs de dire à Macron, ok, tu nous as invités, mais en fait en réalité c'est nous, pas les maîtres du monde, mais tous ceux qui décidons de l'agenda, c'est pas toi qui vas décider. Donc il y a une continuité, extrêmement agressive, surtout très familière. Moi ce qui est assez étonnant, c'est la familiarité avec laquelle il parle Emmanuel Macron et donc à la France aussi.
Yasmina Jaffar, ce président américain est décidément imprévisible, je le disais dans les titres. Dans ses tweets également, il tape notre président français sur sa popularité, sur le taux de chômage à presque 10%. C'est quand même un brin insultant.
Oui, il utilise un moment de faiblesse, donc c'est assez pénible de le voir tirer sur une ambulance pour prendre une expression connue. Donc ça ne le glorifie pas, en tout cas, Donald Trump. Et c'est l'homme binaire qui utilise des réseaux sociaux avec « j'aime, j'aime pas ». Donc il fonctionne avec 140 signes. Et à travers ça, il est à deux doigts de l'incident diplomatique, mais il s'en fout parce qu'en effet... Il parle à sa base et il y a une technique très claire qui est je suis en permanence en campagne parce que je suis proche de vous, je suis permanence en me présentant pour la prochaine élection parce que je suis proche de vous et il en est fini du président coincé dans sa tour, je suis en lien avec vous-même et je reste populaire parce que je parle le même langage que vous.
Alors justement, c'est ce que dit l'Élysée d'après l'agence France Presse qui cite un conseiller présidentiel qui aurait dit les tweets de Donald Trump sont faits pour les Américains, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, nous n'avons pas à commenter des propos qui sont tenus pour ses concitoyens. Marion Moore, encore un mot là-dessus. Nous y reviendrons après le rappel des titres. Mais l'Élysée a intérêt à faire profil bas dans cette histoire.
Oui, ils ont un peu découvert les tweets parce qu'il y avait justement un conseiller qui mangeait avec un certain nombre de journalistes au moment où les tweets arrivaient. Et donc oui, il vaut mieux minimiser et renvoyer ces tweets à la politique américaine, à la base de Donald Trump, pour pas donner trop d'écho à ces messages.
Allez, 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
Face à la colère des Français contre la hausse des taxes sur les carburants, Édouard Philippe va battre ses cartes. Le Premier ministre va présenter demain matin les mesures pour aider les Français à faire face. Le Président de la République évoquera également ce sujet demain dans le 20h de TF1. Samedi, les Gilets jaunes appellent au blocage des routes pour dire non à ces augmentations de prix des carburants. Une enseignante du lycée Jean Zay à Orléans frappée au visage hier après-midi par une élève de 15 ans scolarisée en seconde. La professeure aurait refusé à l'adolescente qu'une de ses camarades s'assoie à côté d'elle en classe. L'auteur présumé des coups est présenté comme une élève difficile, placée en garde à vue. Elle est hospitalisée actuellement pour des soins psychiatriques. Une étape de plus, peut-être cruciale cette fois-ci dans les négociations autour de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le gouvernement britannique annonce l'existence d'un projet d'accord technique entre Européens et Britanniques sur le Brexit. Ce compromis sera examiné dès demain outre-Manche en Conseil des ministres. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir aujourd'hui pour évoquer les violences au Moyen-Orient. Les groupes armés palestiniens, dont le Hamas, évoquent ce soir un cessez-le-feu avec Israël. Il fait suite aux échange de tirs entre les deux camps après une opération militaire israélienne qui a fait 8 morts, dont 7 Palestiniens.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Donald Trump avait pourtant déjà émis un premier tweet, souvenez-vous, avant d'atterrir à Paris pour juger insultant les propos d'Emmanuel Macron sur la création d'une armée européenne qu'évoquait Pascal Blanchard. On va y revenir justement. Les deux présidents avaient fait bonne figure, c'était samedi dernier, souvenez-vous, en réunion bilatérale.
Je partage l'avis du président Trump selon lequel nous devons mieux partager le fardeau au sein de l'OTAN et c'est pourquoi je pense que mes propositions pour une défense européenne vont tout à fait dans ce sens. Parce que cela signifie plus d'Europe au sein de l'OTAN, plus de capacité pour assumer notre part du fardeau.
Nous nous entendons du point de vue de l'équité et je veux que ce soit juste. Nous voulons aider l'Europe, mais il faut que ce soit juste. À l'heure actuelle, le fardeau est largement porté par les États-Unis et comme le président le dit, il comprend.
Apparemment, Yasmina Jaffar, cette rencontre n'a pas suffi à calmer la colère de M. Trump.
Non, parce qu'en effet, Emmanuel Macron a commis une petite maladresse lors de l'interview il y a eu quelques jours à la radio quand il a assimilé l'Amérique et peut-être à la Chine. Donc en mettant tout le monde sur le même plan avec ce côté totalitaire, Donald Trump ne peut que s'énerver parce qu'il est dans la non-volonté du multiculturalisme et dans la multilatéralisme et dans la volonté d'avoir une économie refermée sur lui-même, mais en tout cas ça n'a rien à voir encore avec un régime totalitaire. Mais par contre, juste pour revenir sur ce que vous disiez, Marion, au contraire, je pense qu'on doit répondre parce que c'est très 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 grave ce qu'il a dit par rapport.
Mais là, quand
il faut prendre
le
temps, voilà, juste il faut prendre le temps de répondre parce que voilà, il faut prendre le temps de répondre pour ne pas jouer son jeu du tweet rageur avec 4 points d'exclamation en gras et en majuscule, parce que c'est très grave de dire aux Français cette histoire autour des années 40, de la langue allemande.
Je suis d'accord, mais la première réaction d'un conseiller, il se retrouve avec une quarantaine de journalistes. Et il est obligé de réagir et il sait que ses propos vont être pris. Donc la première réaction est sûrement un peu timorée. Et on va attendre, vu que demain la présidente...
Il fait quand même un point d'humour. Il dit que c'est quand même une bonne nouvelle que Trump redécouvre l'histoire de l'Europe. Au même moment, on dit que c'est resté neutre, mais quand même, il y a un petit truc qui tombe à ce moment-là pour dire, tiens, c'est très étonnant que d'un seul coup, Trump pense et connaisse l'histoire. Donc il y a quand même de l'humour aussi, parce qu'il y a un jeu que Trump est en train d'imposer entre tout le monde. C'est que même si on ne répond pas à ses tweets, même si on ne répond pas en 5... D'une certaine manière, il amène un rythme. Il amène une mécanique qui est toute nouvelle. La diplomatie à la papa n'existe plus dans ce jeu-là.
Pascal Blanchard, c'est lui qui a la main.
Mais il a la main d'abord parce que c'est la première puissance mondiale, parce qu'on sait bien aussi que tout le monde se pose la question de cette nouvelle guerre froide qui émerge et du rapport de force qu'il y a avec la Chine, que Trump est quand même en première ligne. On a beau le dire comme on veut, il l'est. Et qui donne surtout un rythme, ce qui est très nouveau. La diplomatie avant prenait 2, 3, 4 années sur une question. Maintenant, elle peut le prendre 2 ou 3 ou 4 jours. Oui. C'est-à-dire que là, il y a des enjeux. Et il voit bien que l'Europe est dans une passe qui est complexe, que Macron a du mal à convaincre ses partenaires européens de cette idée d'une armée européenne plus indépendante. Et c'est vrai que la provocation d'Emmanuel Macron de dire l'Amérique peut être un de nos dangers au même niveau que la Russie et la Chine, mais n'oublions pas que c'est ce que pensent aujourd'hui les militaires en Europe. Donc ils savent très bien que c'est aussi Emmanuel Macron a aussi, non pas dans un tweet cette fois-ci, mais dans un discours, je ne suis pas sûr que ce soit une gaffe. C'est un message qui est aussi envoyé pour faire plaisir à certaines nations européennes qui partagent le même point de vue.
Alors justement, Jean-Christophe Gallienne, un mot là-dessus. Angela Merkel, devant le Parlement européen à Strasbourg, a défendu l'idée de l'armée européenne. Elle a dit, je la cite, « Cela peut être une armée qui complétera de façon très utile l'OTAN sans remettre en cause ce lien. » Donc nous sommes en train de nous acheminer contre Donald Trump vers cette idée de... C'était un serpent de mer, si mon souvenir est bon, l'armée européenne. C'est en train de se concrétiser.
C'est très compliqué. En fait, en réalité, Emmanuel Macron, il a pris un risque, de provocation, et pour faire bouger les lignes, il est devenu trumpien, parce que finalement, Trump, effectivement, il fixe l'agenda en provoquant systématiquement. Sur du fond, c'est rarement hors de contexte. C'est-à-dire, finalement, à la fois sur la Chine, là, quand il le fait en Europe, c'est sérieux. C'est familier envers Emmanuel Macron, mais ça vise véritablement le débat interne européen à la veille quand même d'élections européennes qui vont être très sensibles. Et sur l'affaire de la défense, il sait très bien que l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est de convaincre. Il peut convaincre une Angela Merkel qui est quasiment en fin de règne, qui pourrait disparaître même avant les élections européennes. Et en fait, il sait très bien qu'il aura du mal à convaincre les autres États, parce que pour pouvoir faire une armée européenne et pour devenir souverain sur le plan militaire, même à l'intérieur de l'OTAN, il faudrait des moyens qu'aucun des pays aujourd'hui en Europe n'est capable d'assumer. Donc ça veut dire que c'est la France, le Brexit aidant, qui va devoir supporter une grande partie de cette affaire. Donc il connaît la position faible d'Emmanuel Macron et il le fait de manière spécifique, non pas simplement dans le débat interne américain, mais parce que en Europe il intervient et il intervient de manière diplomatique, mais surtout politique, toujours dans cette manière finalement d'affaiblir au moins les gens sur les plus faibles. Emmanuel Macron aujourd'hui traverse un chemin de croix mémoriel, on l'a vu la semaine dernière, mais son moment international qui normalement aurait dû bien se passé, finalement, n'a pas renforcé sa position.
Dernier mot là-dessus, Marion Mourgue.
Ce qui est dingue, c'est que quand on se souvient qu'il y a un an et demi, c'était l'amitié montrée en grande pompe, Donald Trump reçu ici en France. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit que Donald Trump a aussi du mal à supporter que Emmanuel Macron intervienne sur CNN, les journaux américains. Donc voilà, de part et d'autre, ils se répondent par...
Pascal Blanchard, je vous ai vu hocher la tête. Oui, c'est le 11 novembre, c'est quand même plutôt bien débrouillé.
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de critiques, itinérance mémorielle, la manière dont le président Emmanuel Macron a choisi de commémorer cette fin de conflit, je trouve qu'il s'en est pas si mal sorti que ça, parce qu'il a réussi à basculer sur quelque chose que personne attendait. Pour la première fois, d'ailleurs, les Français ont suivi une commémoration. Oui. Tout le monde en sera. Le monde entier sait ce qui s'est passé à Paris. Il a été quand même un moment, en tant que porte-parole d'une Europe extrêmement présente entre les deux grands, il manquait que la Chine, et il a réussi à imposer cette image qu'il y avait maintenant une voix européenne dans cette commémoration. Je suis pas sûr qu'on le jugera comme un
échec dans cette commémoration. Je vous incite à aller voir les commentaires sur dans la presse étrangère. Nous sommes très français quand on regarde les choses de cette manière-là. C'est un événement franco-français, et là, pour le coup, ça fait baisser un petit peu l'intensité, mais c'est normal. Le 11 novembre, c'est pas partagé par tous les Européens. Loin s'en faut. Loin s'en faut.
Je ne sais pas quel est le niveau de critère, de la vignette critère de la Cadillac de monsieur, blindé de monsieur Trump à Paris, mais la France, pour l'instant, elle fait face à une crise autour de la hausse des taxes sur les carburants. Christophe Castaner a mis les gilets jaunes en garde. Attention, blocage interdit ce samedi. C'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit ce matin chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC BFM TV.
Je demande qu'il n'y ait aucun blocage total parce que ceux qui manifestent sont des citoyens et ils savent aussi l'importance pour nos citoyens.
Donc vous interviendrez samedi. Les forces de police interviendront s'il y a blocage total.
Partout où il y aura un blocage et donc un risque pour les interventions de sécurité, mais aussi pour la libre circulation, nous interviendrons. Mais je pense que le problème ne se posera pas.
Yasmina Jaffar, le ton se durcit.
Oui, ben le ton se durcit. Monsieur Castaner vient d'arriver, donc on peut pas juger complètement sur ses prises de parole, mais les deux trois fois où il a tenté de prendre la parole, c'était plutôt vertigineux. C'était plutôt compliqué. Donc là, il tente aussi une forme d'autorité. Il a raison. Mais demain soir, Emmanuel Macron donnera une interview.
Depuis le porte-avions Charles de Gaulle, c'est ça?
Je crois, par Gilles Boulot, exactement. Oui. Et donc, ça sera le moment d'être plutôt dans un moment de pédagogie, plutôt que d'être dans l'autorité. Parce que le 17, en effet, il y a quelque chose qui va dépasser un petit peu les oppositions, parce qu'il les a tués, les oppositions, à travers cette élection. Donc, il n'y a pas de corps intermédiaire, et c'est la base qui se réveille. Donc, il faut peut-être plus discuter sur cette histoire de taxes, sur cette histoire de pourquoi, où va l'argent, plutôt que de dire, je ne veux pas de blocage.
Nous, on va prendre le temps de discuter de ça, je vous rassure, dans un instant. Marion Bourg, juste un mot, il y a une espèce de mise en garde qui est nécessaire selon vous?
Je lui souhaite bon courage à Christophe Castaner s'il veut éviter les blocages, parce que là il s'annonce quand même important le 17, on sent une colère qui monte, et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une opération déminage demain. On a le Premier ministre le matin, le Président le soir dans la même journée qui s'exprime. C'est très rare de voir ça, et on voit un exécutif qui est un peu en peine d'arriver à expliquer sa politique et arriver aussi à se faire entendre. Donc le 17, ça risque d'être suivi, et le Président aurait mieux fait de répondre après le mouvement que de s'exprimer avant, où il crée de fait une attente. Quoi.
Allez, on va rester sur ce thème des carburants. On va évoquer peut-être les questions de sécurité, mais également le fond. On va arriver sur le fond du dossier, évidemment. Mais ce sera tout de suite après le rappel de l'info sur France Info à 20h20 avec vous, Thomas Bénèche.
Ils ont vécu l'horreur le 13 novembre 2015 au soir et ils ont reçu ce soir à Matignon une médaille nationale de reconnaissance. Les victimes du terrorisme sont honorées depuis ce matin, 3 ans après les attaques qui ont frappé Saint-Denis, des cafés de Paris et la salle de spectacle du Bataclan. Le Bataclan où s'est recueilli ce matin entre autres le Premier ministre. Édouard Philippe qui va présenter dès demain matin les mesures pour aider les Français à lutter contre la hausse des taxes sur les carburants. Ces annonces interviennent à 4 jours de l'appel au blocage des routes françaises par les Gilets jaunes. Ils se mobilisent contre les prix des carburants. Après de 4 mois de la sortie officielle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le gouvernement britannique annonce l'existence d'un projet d'accord technique sur le Brexit. Conclu avec les Européens, il doit être examiné demain, outre-Manche, en Conseil des ministres. Il devra passer également l'étape de la validation politique côté Grande-Bretagne comme côté européen. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires appelle un cessez-le-feu autour d'Odeida, ville d'un Yémen en guerre. Une ville aux mains des rebelles chiites outillés dont les forces pro-gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite cherchent à reprendre le contrôle. Londres annonce la tenue de pourparlers de paix dans ce conflit au Yémen d'ici la fin du mois. Joe Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Jérémy Chardy, Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert. Ces 5 joueurs français de tennis disputeront la finale de la Coupe Davis face à la Croatie. Yannick Noah, le sélectionneur, l'a dévoilé aujourd'hui.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce qu'il y a vraiment des risques de dérapage? C'est Muriel Pénicaud qui déclarait chez nos confrères de Public Sénat qu'au fond, les gilets jaunes, Pascal Blanchard, ne sont pas une organisation structurée. Ça peut poser problème sur le terrain.
Sur le terrain, ça peut poser problème, mais dans la tête du gouvernement, ça pose surtout un problème de fond. C'est qu'à la fois, c'est pas structuré, mais c'est relayé par les deux extrêmes et par le Parti conservateur. Mine de rien, Wauquiez, Mélenchon, Le Pen ont plutôt soutenu Dupont-Aignan, plutôt soutenu le mouvement. Ça rappelle exactement ce qu'a été vraiment un calvaire dans ce pays pendant 5 années, qu'a été le poujadisme. C'est que c'est parti exactement de la base. Au départ, personne. Au départ, un petit mouvement artisan, commerçant. Ça se plaignait de quoi, rappelez-vous? Les taxes? les impôts. Ça venait de la base, donc incontrôlable par les politiques classiques, récupéré après, mais incontrôlable pendant 3 années par les partis politiques classiques, parce qu'on ne sait pas avec qui parler. On ne parle pas avec un syndicat, on ne parle pas avec un mouvement organisé ou qui viendrait d'une organisation. J'étais cette semaine avec plusieurs véhicules et je voyais des gens qui avaient tous sur leur tableau de bord des petits gilets jaunes. Et je dis à la personne, vous avez sorti déjà votre gilet pour samedi? Non, pas du tout. C'est nos collègues cab ou nos collègues voitures ou nos collègues taxis qui nous les donnent pour qu'on en ait pour ce week-end. Ça veut dire quoi? C'est un mouvement qui fait passer un nombre de messages incroyables à travers la hausse de l'essence, parce que ça touche au quotidien des centaines de Français sur le territoire, mais surtout pour le gouvernement. Ils ont beau promettre, il y a un ras-le-bol beaucoup plus vaste par rapport à ça. Je veux dire, ça a commencé, rappelez-vous, avec ces lignes NCCF qu'on voulait fermer, où le gouvernement a fait demi-tour très rapidement. Ouais. Et là, d'un seul coup, ils n'ont pas vu venir l'affaire. Ils ne se sont pas rendu compte que c'est peut-être un des sujets
très incontrôlables de ce mouvement.
Et parce que beaucoup de gens sont impliqués sur les territoires, en zone rurale, et qui prennent leur voiture. Rappelez-vous que c'est le premier poste de défense pour les de dépenses pour les Français en zone rurale aujourd'hui, devant les loyers.
Je vais vous faire réagir, Jean-Christophe Gaillen, à ce que dit justement, vous évoquiez les partis politiques, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, invitée de Nicolas Demorand sur France Inter ce matin.
Je la trouve profondément scandaleuse, dans la droite lignée d'ailleurs des décisions qui ont été prises récemment. Soyez quand même conscients que tous ces gens qui viennent de voter cette décision sont les mêmes qui, depuis 20 ans, ont poussé, à coup d'incitation fiscale, les Français à acheter des voitures diesel. Et qui, du jour au lendemain, brutalement, dans le cadre de ce qui ne correspond pas du tout à une transition, parce que dans le terme transition, il y a quand même un concept de longueur, dans le cadre d'une rupture brutale, leur explique que le prêt qu'ils ont effectué, qui est souvent lourd sur le budget des ménages pour acheter leur voiture, eh bien, n'a servi à rien, puisque leur voiture, ils ne pourront plus l'utiliser. C'est un véritable scandale.
Jean-Christophe Gaillen, il faut rappeler que le gouvernement n'est en place que depuis 1 an et demi, mais l'argument de Marine Le Pen est assez imparable.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on leur offre une autoroute, cette opposition qui n'existait plus, qui avait disparu, en tout cas, hormis quelques leaders qui tentent de faire leur parcours. Là, on est à un moment où finalement, on a l'impression que le gouvernement de Bercy a repris les rênes. C'est plus du Pouget, au-delà du Pouget, c'est-à-dire que finalement, on a face à nous une agrégation de colères qui sont tout à fait différentes les unes des autres, mais qui se relient sur quoi? Sur ce qu'on a dans la poche, en fait. En réalité, les Français, aujourd'hui, font face à une difficulté dont ils comprennent que le gouvernement aujourd'hui ne le comprend pas. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, on a le sentiment décision hors sol face à une réalité qui est celle d'une difficulté, non pas simplement sur le pouvoir d'achat, mais sur du mal-vivre. Et donc, on a en face de nous, à ce moment-là, une réponse qui est une réponse quasi, encore une fois, du gouvernement de Bercy. Ça remonte à plus loin. C'est des frondes, une accumulation de colère qui, aujourd'hui, s'agrège sur cet enjeu-là, qui est un enjeu sensible, mais qui n'est pas le principal. Il parle de sécession qui sont à l'œuvre dans le pays, et le gouvernement ne l'entend pas. Et c'est certainement pas en le faisant depuis le porte-avions, c'est-à-dire comme avec une symbolique de repli sur quelque chose qui est même extraterritorial, vous voyez ce que je veux dire, qu'on va pouvoir convaincre les Français par l'intervention. Exactement. Mais on n'est pas très. Donc on a face à nous quelque chose qui est très complexe.
Vous êtes très imaginatif. Yasmina Jaffar, est-ce qu'au fond, est-ce qu'il y a des solutions qui sont vraiment capables d'atténuer un petit peu, d'abord financièrement, le problème, et surtout de calmer les esprits? On parlait par exemple de mettre le paquet sur la prime à la conversion, parce qu'après tout, le problème.
La prime à la conversion met d'abord l'accent sur quand on change de voiture, d'abord à 46% le diesel, 47% l'essence et à 7% la voiture électrique. Donc la prime à la conversion ne vient pas forcément régler le problème, parce que c'est pas un achat immédiat de penser à l'électrique, parce qu'il n'y a pas forcément l'infrastructure en France et sur les routes pour pouvoir avoir ces voitures-là. Après, il y a l'argent de cette voiture électrique hybride qui coûte autour qui coûte très cher, autour des 20 000 euros. Donc c'est quand même extraordinairement cher. Et je me fais de la peine d'être d'accord avec Marine Le Pen, parce que je crois que c'est la première fois de ma vie et j'espère que ça sera la dernière. Quand elle parle du mot transition, elle a raison quand elle dit que ça invoque le temps long. Et quand on est aussi brutal avec les Français qui, en effet, parlent d'autre chose que des taxes, on ne peut pas le faire en 10 secondes. Il faut prendre le temps de parler justement de la transition écologique. Et demain, si jamais, donc je reviens sur cette idée de pédagogie, s'il arrive à expliquer aux Français à quel point ça va être long de changer les méthodes et pas forcément d'être dans une action punitive autour de l'écologie, on pourra peut-être être entendu. Mais pour l'instant, les Français se sentent pas entendus.
Ce qui est très
révélateur dans cette histoire, c'est qu'Emmanuel Macron est désormais face aux Français. C'est-à-dire que depuis 1 an et demi, il s'est dit, bon, les élus locaux, les syndicats, tous les corps intermédiaires, y compris les journalistes, ça ne sert à rien, je vais parler directement aux Français. Mais quand vous avez plus d'écran pour faire écran justement à la colère, aux inquiétudes des Français, ou pour faire aussi de la pédagogie des réformes, eh ben vous êtes face aux Français, et là, c'est ce qu'on est en train de voir. Et le 17, les colères risque de s'agréger.
On avait une promesse,
Jean-Christophe Gallien, oui, allez-y.
Une promesse de nouvelle politique, une vraie promesse de changement, de réforme en profondeur, mais pas seulement de la des textes, hein, mais de l'organisation même du politique. Et là, on a quoi? On rajoute de la taxe. Et une fois qu'on a rajouté de la taxe parce que ça tangue, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une aide. Donc c'est de la vieille politique.
Alors justement,
c'est de la vieille, très vieille
politique.
C'est le
dernier président de l'ancien monde, on va dire. C'est pas le nouveau président puisque vous parlez, du nouveau monde.
Exactement. Gardez vos arguments, conservez-les auprès de vous, puisque vous parlez justement des taxes. Nous allons juste après le rappel de la météo et celui des infos, évoquer justement le problème qui est le cœur du problème de la taxation des carburants en France. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie des Informés de France Info.
Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients?
Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe.
Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Et ben moi, un problème avec mon mobile? J'ai une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger.
Bon ben, on part travailler au soleil.
Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
En tant qu'équipementier auto, implanté en Europe de l'Ouest, il nous fallait quelqu'un pour garantir notre niveau d'exigence. C'est l'ingénieur qualité que vous voyez là. C'est une VIE. N'est-ce pas, Cécile?
Exact. Grâce au VIE, j'ai pu apporter mon savoir-faire là où on en avait besoin. Attention, ce montage doit être très serré. Pass auf, die Montage muss ganz fest sein.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Business France accompagne votre développement à l'étranger, du recrutement à la gestion RH. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
France Info Météo, avec l'appli CIC. Agrégez l'ensemble de ses comptes pour avoir une vision globale de son budget. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un temps calme demain, le réveil sera maussade avec des nuages bas et des brouillards fréquents. Près de la Manche, on trouvera quelques éclaircies. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le Limousin, l'Auvergne, sur les Alpes et sur les Pyrénées, le soleil se montrera plus franchement. Il fera plus frais que ce matin, seulement 2 à 8 degrés. Toujours un peu plus sur un petit tiers sud, 8 à 15 degrés du sud-ouest aux régions méditerranéennes. L'après-midi, ça restera encombré sur le nord-ouest, autour de la Méditerranée aussi, jusqu'au midi toulousain où le vent d'autan soufflera jusqu'à 80 km à l'heure. La grisaille sera tenace vers le Val-de-Saône, la plaine d'Alsace. Ailleurs, le soleil finira par prendre le dessus. Vous aurez 7 degrés à Strasbourg sous les nuages, 11 à Paris, 12 à Lille, 16 à Cherbourg, 18 degrés à Angers, Nevers, Valence, 19 à Toulouse et Montpellier et 21 degrés à Ajaccio.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. À 4 jours de la mobilisation, les gilets jaunes déstabilisent le monde politique. Les syndicats refusent de participer à la mobilisation pour éviter, disent-ils, toute récupération, notamment par l'extrême droite. L'ampleur du mouvement reste difficile à prédire, même si avec le repli des cours du brut, les prix à la pompe refluent. Christophe Castaner lui met en garde, le gouvernement n'acceptera aucun blocage total, prévient le ministre de l'Intérieur. La piste du suicide privilégiée après la mort de la présidente de l'association Policiers en colère. La jeune femme de 36 ans a été retrouvée chez elle dans les Yvelines, avec près d'elle son arme de service. Elle était visée par une procédure pour manquement à son devoir de réserve. Elle avait créé l'association Policiers en colère au lendemain de l'attaque de policiers, de fonctionnaires à Viry-Châtillon. C'était en 2016. À Nevers dans la Nièvre, 5 hommes et 3 femmes ont été mis en examen vendredi dans une affaire de viol et d'agression. Agression sexuelle répétée sur 4 garçons. Les victimes ont 4 à 9 ans. Parmi les suspects, les parents des garçonnés et des membres de leur entourage. L'enquête pour France Info de Louise Bertrand.
C'est une affaire hors norme que les gendarmes de la section de recherche de Château-Chinon ont découvert au terme de 10 mois d'enquête. Début 2017, 2 signalements sont réalisés par l'Éducation nationale pour une suspicion de maltraitance concernant 2 fratries. En mai, les 4 petits garçons sont placés dans des familles d'accueil. Au fil des semaines, le silence se brise et les enfants commencent à parler des souffrances qu'ils ont endurées. Les gendarmes prennent alors conscience de l'ampleur de l'affaire. Après une garde à vue de 48 heures, 8 personnes ont ainsi été mises en examen vendredi. vendredi pour pas moins de 70 infractions, dont privation d'aliments, corruption de mineurs, violences aggravées, faits d'agression sexuelle et viols aggravés sur mineurs de moins de 15 ans. C'est un véritable calvaire qu'ont vécu les enfants, selon Paul-Édouard Laloy, vice-procureur de Nevers.
On peut utiliser le terme de calvaire dans la mesure où les faits décrits vont bien au-delà d'une maltraitance. On est effectivement dans des abus de toute nature. On a effectivement des scènes décrites au cours desquelles plusieurs enfants parlent effectivement de la présence de plusieurs adultes en plus de leurs parents.
Parmi les mises en examen, les parents des deux fratries, mais aussi un couple d'amis et deux hommes déjà en détention provisoire actuellement pour des faits similaires. Les cinq hommes ont été incarcérés et les trois femmes ont été placées sous contrôle judiciaire. Lyon, Louise Bertrand, France Info.
À peine rentré de Paris, Donald Trump s'en prend à Emmanuel Macron, dont il a raillé sur Twitter la très faible cote de popularité. Le président américain qui fustige la proposition de son homologue français de créer une armée européenne qu'il avait déjà jugée très insultante lors de son arrivée en France au début du week-end de commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Proposition d'armée européenne soutenue également par Angela Merkel. Après d'âpres discussions, les négociateurs européens et britanniques
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro, Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, avec Pascal Blanchard, historien qui publie Sexe, race et colonies aux éditions La Découverte, avec Jean-Christophe Gallien, politologue communicant président de JCGA. Nous étions sur les carburants et nous allons passer à la fiscalité des carburants. C'est quand même le nerf de la guerre. Le gouvernement ne fera pas marche arrière sur sa politique fiscale. Édouard Philippe, interpellé cet après-midi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement par Jean-Christophe Lagarde, président du groupe centriste UDI Agir.
Nous assumons le fait qu'une taxe carbone est venue s'ajouter à cette TICPE pour un montant d'environ 7,5-7,8 milliards d'euros. À quoi sert cet argent ? Il sert, pour une large part, à permettre la substitution de la fiscalité qui pesait jusqu'à présent sur le travail et à la faire basculer vers la pollution, vers la transformation climatique, vers le dérèglement climatique. C'est un choix politique. Nous considérons qu'il est certes peu populaire, mais néanmoins parfaitement justifié, de dire que demain, la fiscalité doit plus peser sur la pollution que sur le travail. Le montant supplémentaire acquis par cette trajectoire carbone sert, Monsieur le Président, à financer des mesures qui accompagnent les Français dans cette transition.
Alors, Marion Mourgue, je commence par vous. J'ai fait quelques petites recherches. Les taxes sur les carburants rapportent, grosso modo, en France, chaque année, 67 milliards à l'État. Vous avez deux niveaux de taxes, la TVA, qui porte sur le prix du carburant, mais aussi sur le montant de l'autre taxe, la TICPE. C'est celle-ci dont parle le Premier ministre Édouard Philippe, qui est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, 34 milliards de recettes. Grosso modo, sur les 67 milliards de recettes, vous en avez que 7 qui vont à la transition écologique, solaire, éolienne. Est-ce que ce n'est pas là, Marion Mourgue, au fond, le fond du problème de cette histoire de taxes sur les carburants ?
Si, parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la transition, elle peut pas se faire du jour au lendemain, et quand on voit le détail des taxes, on voit que, justement, il n'y a pas 100% pour accompagner cette transition. Mais surtout, ce que les gens retiennent, c'est ce que ça coûte dans le porte-monnaie chaque semaine et chaque mois. Donc les Français veulent bien comprendre qu'il faut changer de société, qu'il faut accompagner la transition écologique, mais ils ont besoin de leur voiture pour se déplacer, pour travailler, et ça, ça leur coûte cher, et ils se disent comment on fait.
Jean-Christophe Gallien, comment on fait ? C'est le temps long de la transition énergétique, qu'il faut des décennies, et là, c'est une facture immédiate, c'est au fond le mur auquel se heurte le gouvernement.
Oui, et puis c'est une addition. Vous aviez des recherches, j'ai regardé, il y a à peu près une taxe par jour dans ce pays, de l'année. On est dans un monde de folie fiscale. dans un pays de folie fiscale. Et les gens le ressentent de manière absolument forte. Vous pouvez leur raconter tout ce que vous voulez sur la transition, la nécessité, je ne sais quel argument humanitaire ou autre. Ils ne peuvent plus. Et ce qu'on a à l'œuvre dans cette espèce de fronde, ces gilets jaunes, on fait face à ça, à cette difficulté de faire face à quelque chose qui en plus va s'accélérer, puisque rappelons-nous qu'au mois de janvier, on va avoir l'effet du prélèvement à la source. C'est-à-dire que vous allez avoir encore moins d'argent dans vos poches. Vous allez faire de l'avance de trésorerie à l'État qui lui-même vient vous agiter une taxe sur votre essence. C'est impossible aujourd'hui, c'est aller trop loin. Il faut que ces choses-là se fassent avec pédagogie, certes, mais il faut aussi qu'il y ait une pédagogie fiscale à l'intérieur d'un gouvernement et d'un État français, puisque ce n'est pas celui-ci qui est en responsabilité particulière là-dessus, mais c'est nécessaire parce que nous allons vers des tensions, vers des évocations dont tout à l'heure Pascal faisait sur le terrain de l'histoire de ce pays, qui vont être beaucoup plus fortes. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les gens ont un réel pouvoir d'achat et ils font face, encore une fois, à une folie fiscale qui est celle de cet État français.
Yasmina Jaffar, quand vous voyez cette décision de la métropole du Grand Paris, elle a été beaucoup commentée depuis hier soir. Les vieux véhicules les plus polluants ne pourront plus circuler autour de la capitale. La comptée de juillet 2019,
c'est juillet 2019, c'est demain.
C'est demain, c'est l'année prochaine.
Voilà.
Est-ce
ça
qu'il
fait
y a
des brutalités.
Un moment? Oui, mais est-ce qu'au fond cette décision-là, parce qu'elle est sanitaire, il y a entre 5 et 6 000 décès annuels dans le Grand Paris, a rappelé Patrick Ollier, qui préside les destinées de la métropole du Grand Paris. Est-ce qu'au fond, à un moment donné, il faut peut-être avoir un langage vérité? Est-ce que ça abonde dans le sens du gouvernement?
C'est nécessaire. Ça abonde évidemment dans le sens du gouvernement, dans cette urgence qu'ils ont à vouloir faire entendre les choses. Mais là, on a vu qu'Édouard Philippe avait du mal à finir ses phrases, ou même à les commencer. Il y avait beaucoup de pauses entre les mots, parce qu'il sait très bien que l'opinion publique est du côté du 17 novembre, et l'opinion publique n'est pas du côté des taxes. S'il y avait des réformes faites sur les dépenses de l'État, peut-être qu'on pourrait comprendre un petit peu. Si vous serrez la ceinture, on peut peut-être aussi le faire nous aussi. Donc il y a aussi un changement de paradigme par rapport aux voitures. La publicité, les constructeurs, on peut leur en vouloir sur plusieurs raisons. Il y a le fait qu'on nous a proposé d'acheter du diesel pendant des années pour ensuite nous dire non, faut surtout pas juillet 2019, il va falloir l'acheter à la poubelle. Et la deuxième chose, c'est la publicité. Ça fait des années qu'on voit des publicités qui nous disent c'est votre liberté la voiture, c'est votre endroit, c'est votre espace clos. Vous ne pouvez pas faire sans. Et aujourd'hui, on dit aux gens, sans avoir une SNCF qui fonctionne très bien ou des transports en commun et des bus suffisants, vous devez aller travailler en région périurbaine sans votre voiture. Débrouillez-vous. Donc c'est compliqué de lâcher sa liberté.
Pascal Blanchard, vous êtes d'accord avec cet argument? On porte atteinte dans l'esprit, au fond, des citoyens, des Français, à la mobilité individuelle qui serait un des derniers espaces de liberté.
Les Américains sont plus forts que nous pour considérer que la voiture et la maison, c'est vraiment l'espace privé absolu, il ne faut pas y toucher. Nous, on n'est pas forcément là-dessus. Par contre, les Français comprennent une chose, c'est que, comme l'État ne montre pas le bon exemple, quand on ne voit pas la politique publique qui est de dire « Ok, on va aider de manière massive les Français à changer de véhicule. » Enfin, un exemple très simple, parce qu'on sait que te voir changer de véhicule, c'est pas un petit investissement. On en parlait tout à l'heure, on a beau avoir des aides, mais qu'il y ait une politique publique qui devienne visible. Là, on parle de 700 000 véhicules sur l'Île-de-France qui vont être touchés. Si à côté de ça, vous voyez la politique publique, ils disent, voilà, vous avez 5 ans pour changer de véhicule, il va y avoir tel type d'aide de l'État, que ce soit un process d'ailleurs énorme qui permette aussi de relancer, je vous rappelle, comme aux États-Unis après la crise avec Obama, le parc automobile et la production d'automobiles aux États-Unis, où on en a profité pour avoir des automobiles plus propres, ce qui est déjà une gageure aux États-Unis, je vous l'accorde, c'est pas le cas. Est-ce que vous êtes au courant, vous, du programme français de développement de l'automobile propre dans les 5 ans qui viennent? Vous savez rien.
La réponse est non.
Voilà. Et donc, les Français, vous imaginez, ils n'ont rien compris à ce que vient de dire Édouard Philippe, ils comprennent encore moins quelle est la politique publique. Alors, quand on leur dit, ouais, c'est 7, 8 milliards qui vont servir à la transition. Mais attends, de quoi vous me parlez? Demain, comment j'achète une voiture? Oui. Basique.
Allez, 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Quelles mesures peuvent aider les Français à faire face à la hausse des taxes sur les carburants? Le Premier ministre doit les dévoiler dès demain matin avant qu'Emmanuel Macron ne prenne la suite dans le 20h de TF1. Ces annonces interviennent à 4 jours de l'appel des Gilets jaunes à bloquer les routes en France. Tout blocage total sera levé, annonce le ministre de l'Intérieur. Une enseignante du lycée Jean Zé à Orléans frappée au visage hier après-midi par une élève de 15 ans scolarisée en seconde. La professeure aurait refusé à l'adolescente qu'une de ses camarades s'assoie à côté d'elle. L'auteur présumé des coups est présenté comme une élève difficile, placée en garde à vue. Elle est hospitalisée actuellement pour des soins psychiatriques. Il pourrait avoir voulu mener une action violente ou partir faire le djihad à l'étranger. 3 hommes ont été arrêtés ce matin à Saint-Etienne dans le cadre d'une enquête antiterroriste. Les interpellations ont eu lieu dans le quartier de la gare. Tous sont en garde à vue, tout comme 2 autres individus actuellement en détention. Campfire, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie, continue de frapper le nord de l'État. Il a fait au moins 42 morts selon
un dernier bilan. Un autre foyer dans le sud Californie a fait deux victimes précisément. En football, le Real de Madrid confirme ce soir la nomination à la tête de l'équipe de Santiago Solari. Il a signé un contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2021. Solari assurait jusqu'à présent l'intérim.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Que faire pour soulager les Français de la facture sur les carburants et en même temps, si je puis dire, respecter les impératifs de transition écologique? Pour Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans, vous le savez, ancien porte-parole de François Hollande, il faut faire cesser la hausse de la taxe carbone. Il l'a dit chez Cyril Viguier sur Public Sénat ce matin.
La hausse qui est prévue à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, oui. On peut pas, dans le contexte, qu'est-ce que je dis? C'est que la taxe carbone a été conçue à une époque, et toujours valide, pour faire en sorte que les énergies fossiles ne soient pas à un prix qui soit tellement compétitif qu'on empêche toutes les substitutions et toutes les autres énergies de naître. C'était ça l'objectif. Et cette taxe intégrait aussi les pollutions liées à l'énergie fossile. Aujourd'hui, la part de cette taxe est de 60% dans le prix, mais le prix du baril de pétrole ayant doublé, on a un prix aujourd'hui des énergies fossiles qui est insupportable pour beaucoup de nos concitoyens. Pendant ce temps-là, les énergies fossiles, elles sont tout à fait concurrençables par des énergies renouvelables. Il faut investir dans ces énergies renouvelables. Il faut travailler sur les alternatives. Mais la taxe carbone, c'est ce que je dis dans ma tribune, faut pas la supprimer. Mais aujourd'hui, il faut arrêter la hausse.
Yasmina Jaffar, il n'a pas tort, Stéphane Le Foll. C'est extrêmement technique, mais au fond, la solution se niche quelque part au milieu de ce discours sur ces taxes qui gonflent avec notamment la hausse de la tonne de CO2 qui se négocie comme une vulgaire marchandise. Qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui pour faire cesser cette mécanique infernale?
Alors, ce qu'on peut faire, mais j'adorerais savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très intéressant de l'entendre parler comme ça, Monsieur Le Foll. Qu'est-ce qu'il s'est passé en effet quand ils étaient aux manettes? Pas forcément grand-chose. Donc, c'est toujours une opposition qui vient s'installer sur les plateaux pour pouvoir dire ce qu'il faut faire. Mais là, il y a un moment grave, il y a un moment d'incompréhension. Et il y a aussi une crise des territoires par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Que ce soit au-delà des voitures et de la taxe, il y a par exemple les déserts médicaux, il y a une ruralité qui s'appauvrit et on leur demande aussi d'abandonner leur voiture. Donc il y a quelque chose de très compliqué en effet dans ce pays en ce moment. Et Les oppositions sont intéressantes, mais elles n'apportent pas de solution, et je ne peux pas en apporter non plus.
Jacques-Yves Gallien, je ne vous demandais pas non plus d'avoir une baguette magique pour en finir avec ce problème, mais qu'est-ce qu'on fait?
On peut en tout cas arrêter d'isoler l'analyse des problèmes, c'est-à-dire les segmenter. On a aujourd'hui une tendance à vouloir tout compartimenter. Or, dans cette affaire, ça a été très bien dit tout à l'heure, donc on parle du futur, on n'est pas en train de parler de maintenant, on est en train de préparer quelque chose. On ne peut pas le faire de manière isolée. J'ai l'impression qu'on réfléchit à ces problèmes toujours en découpant, en prenant la taxe carbone, la taxe sur les produits pétroliers, les voitures, le diesel à tel endroit. On fait même des géographies, puisque le Grand Paris dit, et les autres ne disent pas. Il manque aujourd'hui sur cet enjeu-là ce qu'on aurait pu trouver dans le plan auparavant, en tout cas une stratégie qui devient plus holistique, c'est-à-dire en gros qui s'attaque aux problèmes de manière large. Et on peut pas les résoudre de manière aussi segmentée. C'est la problématique aujourd'hui des gouvernements, qu'ils soient nationaux ou locaux, c'est qu'ils font face à des questions de ce type et qu'ils n'arrivent pas à retrouver une part de vision stratégique sur ces questions-là. Et on a l'impression que c'est tout le temps, on est sur la coup, on répond à un micro-problème, et d'ailleurs c'est cette manière-là qu'on essaie de gouverner, mais aujourd'hui ils font face non plus à des micro-colères, mais au contraire à une agrégation d'un certain nombre de micro-colères, et ça doit les faire réagir.
Allez, pour conclure sur ce sujet, Marion Mourgue, les annonces, c'est pour demain matin, nous verrons bien, c'est ça?
Nous verrons, mais c'est pas sûr que ce soit suffisant, parce que quand même, au-delà de la question du pouvoir d'achat, il y a toujours ce sentiment d'une partie des Français d'être des citoyens de seconde catégorie. Il y a ceux des villes, alors qu'ont tous les transports en commun et tous les moyens pour se déplacer hors de la voiture. Et puis, il y a les autres. Et comment font les autres? Et ça, est-ce que le Premier ministre arrive à y répondre demain? Je ne sais pas.
Allez, je voudrais que nous abordions, pour refermer cette émission des informés, la France qui se souvient et n'oublie pas. Il est question évidemment de l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Un cortège aujourd'hui a relié les six lieux visés par les djihadistes. Souvenez-vous de Saint-Denis à Paris. Ce soir-là, neuf terroristes avaient mené une série d'attentats d'attaques aux abords du Stade de France et dans la capitale, 130 morts, plus de 350 blessés. Le Premier ministre Édouard Philippe, la maire de Paris Anne Hidalgo était présent. Le président Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas y assister, contrairement à l'an dernier avec l'accord des familles des victimes. Il y a eu ce moment de recueillement devant le Bataclan, 90 personnes assassinées. Écoutez ce reportage sur France 2.
Un lieu de fête devenu un temple du souvenir. L'hommage de la nation aux 90 personnes mortes ici ce 13 novembre 2015, c'était il y a 3 ans.
Moi j'ai déjà des petites filles et j'espère qu'elles vont danser, qu'elles vont chanter, qu'elles se mettront à des terrasses de café comme moi je l'ai fait, je le fais encore, qu'elles vont vivre.
90 personnes qui voulaient juste voir un concert et bam.
Elle avait quel âge votre amie ?
17 ans. C'est la plus jeune.
Plus tôt dans la matinée, Édouard Philippe et la maire de Paris ont déposé des fleurs dans chacun des lieux attaqués par les terroristes. 3 ans après, un hommage comme un message adressé aux rescapés et aux victimes.
Je m'adresse à vous, Pascal Blanchard, vous êtes historien. En aucune façon, il faut oublier ce qui s'est passé.
Non, mais ça c'est une évidence. Ce qui est important, c'est qu'en même temps, c'est à la fois une date et maintenant ça devient un lieu de mémoire. Ce qui est très important dans l'esprit commémoratif, d'abord c'est qu'il y a des noms. Donc on se rappelle de qui a pu être tué, de qui peut être victime. Ça, c'est très important dans le commémoratif. Il y a une date qui est maintenant rentrée dans notre, je dirais, dans notre panthéon collectif. C'est-à-dire, je pense que tous les Français savent à quoi correspond le 13 novembre. C'est-à-dire que ça y est, ça se crée. Et maintenant, on est en train de construire aussi quelque chose qui est très important pour commémorer, c'est des lieux. Et c'est pour ça que le périple qui a lieu aujourd'hui, le fait de faire un cheminement, le fait de passer d'un point à un autre, relie ces lieux pour en faire un événement national. C'est ce que Pierre Nora a appelé des lieux de mémoire. Et ça commence à devenir un de nos lieux de mémoire. Ça ne veut pas dire que c'est pas plus dans le présent, qu'il n'y a pas des urgences, qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de se reconstruire psychologiquement et physiquement, qu'il n'y a pas encore un danger. D'ailleurs, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur en ont parlé du danger actuel qui pouvait encore exister de terroristes, mais on est en train là, et ça a été un des grands moments de fédération de la nation. Je veux dire que, quand vous allez à l'étranger, et que vous parlez de ce 13 novembre à d'autres personnes qui regardent la France, les gens sont surpris d'abord de deux choses, c'est la solidarité qu'il y a eu dans le pays, mais surtout, que les Français n'ont pas réagi avec une violence contre l'autre après ces attentats. Oui. La France a été regardée avec quelque chose d'assez étonnant, d'assez même fascinant, que les Français à la fois étaient tous collectifs dans leur douleur, et qu'en même temps ne s'est pas vengé sur des Français qui auraient pu être assimilés comme responsables d'eux. Et ça, je pense que dans notre récit, c'est aussi ça qui est important à dire, se souvenir de ce qui s'est passé, lutter contre le terrorisme, mais dire aussi que notre pays a été à la hauteur de la rencontre avec l'histoire à ce moment-là.
Vous êtes d'accord, Yasmina Jaffar, oui. Moment de mémoire collective et d'unité nationale.
Complètement. Aujourd'hui, on pourrait polémiquer sur le fait qu'Emmanuel Macron n'y était pas, mais en fin de compte, c'est pas du tout un problème.
Pour des raisons personnelles.
Voilà, pour des raisons personnelles, mais en fait, il avait déjà prévenu bien en amont, même l'année dernière déjà, oui. Il avait pas forcément envie d'y aller, parce qu'on ne peut pas être dans la commémoration permanente, comme il disait, mais au-delà de ça, aujourd'hui, ce qui est intéressant, j'ai ressenti ça, c'est d'écouter des témoignages. 3 ans après, cette histoire autour de la résilience, de comment on fait pour se reconstruire. Et le seul regret que j'ai, moi, c'est que le secrétariat d'État aux aides aux victimes ait disparu. Voilà, parce qu'on en a besoin aujourd'hui, 3 ans après, plus que jamais. Et que ce qui existe là, ce qui a été mis en place dans la délégation interministérielle, n'est pas suffisante pour répondre à la difficulté, 3 ans après, de quelqu'un qui a un membre en moins, une jambe, et qui a besoin de communiquer auprès des administrations pour avoir son indemnisation.
Marion Mourgue, c'est une personnalité qui était... C'était, je crois, Juliette Méadel qui occupait ce secrétariat d'État sous François Hollande. Vous pensez que il serait nécessaire d'y revenir ou pas?
Elle le déplorait. Et c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que la France a connu une série d'attentats comme rarement, et on n'a plus un ministre en charge de ce dossier. Alors évidemment, il y a l'intérieur, mais il n'y a plus une personne qui illustre l'interlocuteur pour les victimes.
Qui incarne cette position-là. 20h50 sur France Info. Nous reviendrons, évidemment, nous poursuivrons sur la menace terroriste en France. Mais tout d'abord, c'est le rappel de l'info sur France Info avec vous, Thomas Benesch.
Le maire de Marseille s'est entretenu aujourd'hui avec le chef de l'État et le Premier ministre. Selon l'élu, ils l'ont assuré du concours de l'État pour régler les problèmes de logement dans le quartier de Noailles. Aujourd'hui, les enquêteurs de la police judiciaire marseillaise ont mené des perquisitions à la mairie ainsi que dans les locaux du bailleur social Marseille Habitat, une semaine jour pour jour après l'effondrement mortel de 2 immeubles. Le Premier ministre Édouard Philippe va présenter dès demain les mesures pour aider les Français à lutter contre la hausse des taxes sur les carburants. Ces annonces interviennent à 4 jours de l'appel au blocage
blocage des routes françaises par les gilets jaunes. Ils se mobilisent contre les prix des carburants. Silence radio à l'Elysée. Après la série de tweets publiés ces dernières heures par Donald Trump, le palais ne souhaite pas abîmer la relation entre Emmanuel Macron et son homologue américain. Cet après-midi, le président des États-Unis est revenu à la charge contre le projet d'armée européenne défendu par le chef de l'État français, demandant à l'Hexagone d'augmenter sa contribution à l'OTAN. Après de 4 mois de la sortie officielle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le gouvernement britannique annonce l'existence d'un projet d'accord technique sur le Brexit. Conclu avec les Européens, il doit être examiné demain, outre-Manche, en Conseil des ministres. Il devra passer également l'étape de la validation politique côté Grande-Bretagne et Europe.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
La menace terroriste donc reste présente. Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, l'a rappelé ce matin au micro d'Elisabeth Martichou sur RTL.
Non, elle n'a pas baissé. Je suis pas anxiogène, je suis malheureusement réaliste. Regardez ce qui se passe au Sahel, regardez ce qui se passe en Afghanistan, au Pakistan. Il y a la menace internationale et pire, il y a la menace dans nos quartiers, dans nos territoires. Cet islamisme que dénonçait avec une grande lucidité Gérard Collomb, c'était son meilleur discours, c'était le dernier en tant que ministre de l'Intérieur. Mais il a raison. Et une mesure très simple, vous savez, j'ai interrogé la ministre, il y a plus de 20 000 personnes qui sont considérées comme dangereuses. Et à l'intérieur de ces 20 000, il y a quasiment 4 000 étrangers. Je demande leur expulsion immédiate.
Jean-Christophe Gallien, elle n'a pas baissé, la menace terroriste, elle est toujours aussi présente, mais Éric Ciotti semble même dire que peut-être il y aurait des dispositions urgentes à prendre aujourd'hui, alors qu'on n'en parle vraiment plus, ce n'est plus le sujet du moment.
C'est plus le sujet, mais ça ne veut pas dire pour autant, c'est pas un sujet politique, c'est un sujet de terrain. On sait bien qu'il y a des actions, on sait bien qu'il y a, nous, en tant que citoyens, lorsqu'on vit dans ces villes qui sont quadrillées par des militaires, on sait bien qu'il y a, ça et là, effectivement, des interventions qu'on ne commande pas, et heureusement, tant mieux si les événements sont au ralenti, sont silencieux, qu'il n'y a rien du type du 13 novembre qui a été célébré aujourd'hui, c'est parfait. Pour autant, il y a des éléments dans notre univers et dans certains espaces territoriaux de ce pays qui posent des questions. Ciotti le dit à sa manière, mais il faut en permanence le rappeler. Et je crois que les forces de police et les forces armées aujourd'hui sont soumises à rude épreuve dans ce combat qui est mené, dans ce combat quotidien qui est mené. S'il ne faut pas en faire une traduction politique permanente, pour autant, il ne faut pas le nier. Il faut surtout avoir grande vigilance. Rappelons-nous que dans les écoles, encore aujourd'hui, il y a des exercices. Ouais. Il y a des exercices. C'est une réalité. Donc, sans en faire, encore une fois, un élément permanent, il faut en permanence agiter au contraire l'idée qu'on fait des efforts et qu'il faut être très vigilant.
Pascal Blanchard, 4 membres de l'ultra-droite qui projetaient la semaine dernière d'attenter à la vie du chef de l'État, djihadisme, ultra-droite. Est-ce que tout est prétexte au passage à l'acte aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une forme de libéralisation de la violence par rapport à avant, comme on voit aux États-Unis notamment?
Vous avez oublié le temps des anarchistes dans ce pays, vous avez oublié le temps de la violence politique dans les années 30. Il y avait plus d'attentats et de morts dans les années 30 qu'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui persuadés que c'est plus violent, d'abord parce qu'on vit ce moment et qu'il y a les réseaux sociaux et que vous avez les images. De ce côté-là, vous voyez plus d'attentats et de morts que vos grands-parents, que vos arrière-grands-parents. Mais je vous rassure, vos arrière-grands-parents ont connu plus d'attentats dans leur pays que vous aujourd'hui. Mais nous sommes dans quelque chose qui est un peu différent là. Nous sommes dans quelque chose d'une proximité maintenant du risque. Avant, il y a 2, 3, 4 ans, ce risque venait souvent de l'extérieur, ou pouvait venir d'une organisation qui pouvait s'appuyer un peu sur l'intérieur pour les attentats. On sait aujourd'hui qu'on est dans une queue de la comète de Daesh, une queue de la comète du conflit, notamment en Syrie et en Irak, de gens qui, seuls, pas forcément installés dans des ramifications connues, donc durs à suivre, durs à identifier sur les réseaux sociaux, peuvent réagir d'une manière extrêmement indépendante, je dirais même presque non structurante. Et en fin de compte, on le sait tous, c'est beaucoup plus compliqué de repérer quelqu'un qui n'appartient à aucun réseau, aucun système, que d'aller identifier un réseau qui existe. Et c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est que c'est des personnes lambda, qui n'appartiennent à aucune organisation, qui souvent ne sont même pas fichiers S, qui souvent ne sont même pas surveillés, d'où vous avez entendu la demande très précise du ministre de l'Intérieur, de dire qu'il va y avoir un travail très différent qui va être fait avec les maires. C'est que maintenant, on va signaler aux maires des personnes à risque sur leur commune, et les maires vont pouvoir être entendus d'une manière récurrente, parce que ça sera complètement recoupé, y compris à l'échelon national.
C'était une demande des maires depuis longtemps, et avant, ça se faisait à la discrétion du préfet, s'il s'entendait bien.
Suivre au quotidien, non pas son voisin, mais suivre au quotidien le territoire. Pourquoi ? Parce qu'on sait que là, maintenant, il y a un type de risque nouveau c'est la personne dont la police, en fait, ne sait pas l'identifier. Parce que c'est des gens qui n'ont rien fait jusqu'à
présent. Il faut se souvenir que Sami Amimour, l'un des trois terroristes du Bataclan, était un chauffeur de bus de la RATP, oui. Marion Mourgue. Cette circulaire en direction des maires, on a envie de dire enfin.
Ouais, en tout cas, les élus disent oui, enfin, parce que ça fait des années qu'ils le demandent. Et c'était toujours, s'ils s'entendaient bien avec le préfet, là, ils pouvaient avoir des informations, mais ce n'était pas généralisé. L'idée, là, c'est aujourd'hui de mettre en commun les informations pour que tous les élus les aient.
Alors, et on est un des meilleurs systèmes au monde. Hein. Lurcher, on le dit jamais, mais on est un des systèmes à ce niveau-là qui arrive à respecter un équilibre qui est toujours compliqué entre liberté publique et entre surveillance. Par rapport aux États-Unis ou à d'autres pays, la France a plutôt une politique qui n'est pas... On se critique très souvent, on se flagelle très souvent, mais là-dessus, c'est compliqué, vous savez, l'équilibre entre surveillance et liberté. Et je trouve qu'on n'est pas, on fait pas ça si mal que ça, parce que c'est très compliqué de trouver ce juste équilibre.
Alors, vous faites bien de le rappeler, il reste très peu de temps, pardonnez-moi, mais vous vouliez... il faut rappeler quand même que les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes sont en première ligne. Et Yasmina Jaffar, vous vouliez évoquer le suicide hein, de Maggie Biskupski, qui était la présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère. Elle était membre de la BAC dans les Yvelines.
Exactement.
Et justement, elle était peut-être une voix forte qui se faisait entendre sur les difficultés que rencontrent aujourd'hui les forces de l'ordre.
Une voix forte et une voix différente surtout. Elle était sous le coup d'une enquête de l'IGPN justement parce qu'elle a décidé de parler quasiment en son nom à travers une association, différemment du corps lié à un syndicat, et elle l'a payé aujourd'hui, l'a auto-payé, voilà, aujourd'hui et cette nuit, et c'est très difficile à entendre parce qu'on l'a vu sur les différents plateaux de télévision ces derniers temps et on a vu une fragilité extrême. Donc c'est vrai que les moyens ne sont pas forcément donnés à la police. C'est vrai que quand on parle de ces attentats il y a 3 ans, on a très bien réagi, grâce aussi à François Hollande, il faut le rappeler, qui a très bien réagi en tant que président de la République pour créer une unité. Mais les mots ont été dits quand M. Beltram a été enterré, a été dit par le président de la République quand il a employé le mot barbarisme et islamisme. Et c'est important de dire les choses pour pouvoir agir nous aussi et d'être dans la vigilance.
Allez, Marion Mourgue, qu'y a-t-il à la une du Figaro demain ?
Les États-Unis et l'espionnage des entreprises que les États-Unis font.
Allez, Marion Mourgue, Yasmina Jaffar, Pascal Blanchard, Jean-Christophe Gallien, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé aux Informés de France Info ce soir. Pour ma part, je vous retrouve pour une toute nouvelle édition demain. Bonne soirée.